franceinter.fr.
Bonjour Hélène.
Bonjour Pierre.
On commence Hélène par une actualité qui enflamme la presse ce matin.
Oui, pas de trêve des confiseurs Pierre cette année, mais une presse effectivement tout feu tout flamme sur deux dossiers brûlants. Le torchon brûle au PS sur la déchéance de nationalité, nous dit aujourd'hui en France le Parisien. Quand il suffisait d'une étincelle en Corse, nous annonce Libération. Alors on commence par cette mesure assumée par le couple exécutif Hollande-Valls, mais vivement contestée à gauche, la fameuse déchéance de nationalité étendue aux binationaux. Monsieur le Président, vous n'avez pas honte ? Interpelle sur une pleine page dans Libération Dominique Sopo, le président de SOS Racisme. Dominique Sopo qui accuse François Hollande d'avancer cette mesure contre l'idéal républicain, contre votre parti et contre votre parcours, lui dit-il. Dominique Sopo qui rappelle qu'en 2010, le même François Hollande était aux côtés de SOS Racisme pour contester l'idée qu'il puisse y avoir deux catégories de Français, ceux de souche et ceux de papier. L'année 2015 et son lot d'attentats ont durement éprouvé la cohésion nationale, écrit Sopo. Les personnes d'origine étrangère et de culture musulmane, profondément déstabilisées par ces équipées sanglantes, attendaient que Marianne les embrasse sur le front. Et c'est une gifle qu'elles viennent de recevoir de votre part pour poursuivre un seul but, votre réélection en 2017, conclut-il. Tribune au vitriol et même ton pour Michel Guillou dans l'Humanité. Valls et Hollande disent adieu à la gauche comme à une certaine idée de la France, ainsi que le disait un déchu de sa nationalité en 1940, écrit Guillou. Allusion, bien sûr, au général de Gaulle. Même incompréhension à la base du Parti Socialiste. Dans La Voix du Nord, récit d'un hashtag qui inonde les réseaux sociaux depuis deux jours. Après « Je suis Charlie », puis « Je suis Paris », c'est au tour de « Nous sommes le PS » de mobiliser. Un mot d'ordre lancé par deux militants des sections socialistes roubaisiennes et deunésiennes qui étaient candidats au régional sur la liste de Pierre de Saint-Ignon pour dire que cette mesure est selon eux contraire à l'esprit du 11 janvier et de l'après 13 novembre. Alors, un petit espoir néanmoins pour les militants et les sympathisants de gauche déboussolés, croire avec Jean Levallois dans la presse de la Manche qu'en fait ils n'ont rien compris à la manœuvre. François Hollande montre d'indéniables capacités de derviche tourneur, écrit-il. En fait, il s'est piégé lui-même, mais peut-être cela fait-il partie d'un plan plus subtil encore dont nous découvrirons les prochains épisodes. Un plan plus subtil. Bah, rendez-vous demain peut-être pour y comprendre quelque chose. Hervé Mariton, vous avez dit il y a quelques instants votre opposition à cette proposition d'extension de la déchéance de la nationalité. Vous y voyez de la subtilité de la part du chef de l'État ou tout simplement le calcul qu'après tout il faut coller à l'opinion publique?
J'y vois de la brutalité et l'idée qu'en effet pour coller à l'opinion publique il faut inventer un nombre de mesures même quand elles sont inopérante, inefficace,
mais
je le rappelle.
Beaucoup de vos amis, notamment parmi les Républicains, soutiennent aujourd'hui la mesure proposée par Manuel Valls et François Hollande.
Je pense qu'ils se font piéger à la fois par la gauche, par les terroristes et par un manque de cohérence. Vous avez rappelé combien il est important qu'il n'y ait pas deux catégories de Français. On peut être Français dans la proposition que je fais par le sang, on peut être Français par la naturalisation, on peut être Français par la décision politique, le décret Crémieux. Pendant la guerre, ma mère, mon grand-père, mon arrière-grand-père ont perdu leur nationalité. Parce que à un moment, une construction politique s'est faite de dire que telle communauté portait une part du malheur de la France et était une des causes du malheur de la France. Je vois comment ce type de propos peut être instrumenté aussi. Et donc je veux être à la fois très ferme. On ne définit pas la nationalité aujourd'hui comme hier, car le monde a changé. Et en même temps, très respectueux de ce qu'est quelque chose de fondamental en France, l'égalité entre les Français. Il n'y a pas deux catégories de Français, il ne doit pas non plus y avoir sur un sujet aussi important de rétroactivité de la loi. Or, quelque part, la proposition de François Hollande n'est efficace pour autant. En tout cas, ne trouverait à s'appliquer que si on acceptait sa rétroactivité, ce que je ne veux pas.
Mais vous n'avez pas le sentiment quand même qu'avec cette proposition de déchéance de nationalité, François Hollande tente une opération de séduction de la droite et du centre dans la perspective de la présidentielle de 2017 ?
Il tente probablement, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je constate, c'est le risque, je le redis, pour une mesure totalement inutile sur le fond, de n'atteindre pas même le symbole, les terroristes seraient fiers de la déchéance, et par ailleurs, de ne pas répondre aux enjeux d'identité, ça s'appelle le droit du sang, mais d'abîmer ce qui est un principe fondamental, qui est celui de l'égalité entre les Français. Soit vous êtes Français et vous êtes égaux, soit vous n'êtes pas français et il faut avoir la lucidité et la responsabilité d'en décider en amont.
Bon, on reprend la revue de presse avec vous, Hélène Jouan. La Corse, deuxième sujet hautement inflammable ce matin.
Oui, avec d'abord un cri du cœur lancé à la une de Corse Matin par Jean-Marc Raffaelli. Depuis quelques jours, écrit-il, les réseaux sociaux ressemblent à une arène de lapidation. L'insulte « sale Corse » s'est tissée au top 10 des expressions les plus utilisées. Guerre civile, pogrom, fruits pourris, ivresse ethniciste. D'estimables professionnels de l'information s'interrogeant même, dit-il, les ratonnades aussi se font en langue corse. Et Raffaelli dénonçait ce que l'on voudrait faire porter seul à la Corse, à savoir la xénophobie, et de défendre cette langue corse, qui n'est pas une langue de stigmatisation et de violence, dit-il, mais une langue qui évoque la douceur de la voix maternelle, des berceuses et des prières. C'est notre force, dit-il, d'avoir deux icônes, Marianne et Marie, deux hymnes et deux drapeaux. C'est ce qui fait notre équilibre, certes précaire, quand des Corses islamophobes déstabilisent tout ce qui nous a construit. Mais attention, dit-il, la cohésion nationale, c'est de prononcer les mots justes. Fermeté pour les voyous, fraternité pour les autres. Défense pro-domo donc, mais ce sont bien ces deux questions qui traversent ce matin les articles de la presse nationale sur les incidents qui ont secoué l'île depuis le 25 décembre. Existe-t-il un particularisme corse en matière de racisme? Et les nationalistes sont-ils d'une façon ou d'une autre responsables des discours d'exclusion? Ce dont s'est évidemment défendu il y a quelques instants Jean-Guy Talamoni au micro d'Alexandra Bensaïd. Alors, les réponses sont diverses et variables ce matin. D'abord, parole de l'ancien député maire de Bastia, Émile Zuccarelli, à retrouver dans l'opinion, qui s'interroge sur la responsabilité des nationalistes et autonomistes corses qui viennent d'être élus à la tête de la région. On a exacerbé en Corse, accuse-t-il, les communautarismes. Il y a eu une attitude de provocation vis-à-vis de l'exécutif national, alors c'est difficile aujourd'hui de venir faire la leçon. Analyse nuancée par le politologue André Fazi, maître de conf à l'université de Corte. Non, dit-il, la violence de ces derniers jours est le triste résultat d'une longue sédimentation et ça n'a donc rien à voir avec l'actualité de ces derniers jours. Le site SLET résume les différentes interventions de Marie Perretindiaï, docteur en sociologie et auteur de Racisme en Corse, d'où il ressort qu'on ne peut parler de racisme corse, mais bien de racisme en Corse, nourri par des facteurs locaux, régionaux, mais surtout nationaux. La Corse n'est pas isolée, dit-elle, des débats qui agitent le continent.
Dans la presse également ce matin, Hélène, des témoignages.
Témoignages glaçants de l'épouse d'un des kamikazes du Bataclan, Samy Amimour, confession révélée par Le Parisien. La jeune femme, une lycéenne francilienne de 18 ans, partie en Syrie en 2014, épouse religieuse du terroriste, écrit à l'une de ses proches 3 jours après le carnage. « Je suis tellement fière de mon mari, dit-elle. J'étais au courant depuis le début et je l'ai encouragé à partir pour terroriser le peuple français qui attend de sang sur les mains. J'aurais tellement aimé être avec lui pour sauter aussi. » Kaina, 18 ans donc, qui depuis les attentats a donné naissance à une petite fille et qui s'enferre aujourd'hui dans une glorification morbide de la violence. Témoignage toujours dans Le Parisien d'un ex-otage d'Arlit au Niger, Thierry Doll, ce grand gaillard salarié d'Areva, on se souvient de son sourire sur le tarmac de Villacoublay après sa libération en 2013, parle pour la première fois. Il parle de ses terribles conditions de détention aux mains d'ACMI, menaces, tortures, simulacres d'exécution, de son statut d'esclave passé à celui d'animal après une tentative d'évasion, de la force qu'il a dû puiser en lui pour résister. C'est en restant concentré sur le présent qu'il a tenu, raconte-t-il, en se souvenant en détail de tout ce qui s'est passé, par exemple le 456e jour ou le 732e jour de sa détention. Et puis il parle aussi pour exprimer sa colère face au combat qu'il doit mener pour obtenir aujourd'hui une indemnisation décente et faire la lumière sur les mesures de sécurité prises à l'époque par son entreprise. Il porte plainte aujourd'hui contre l'État et contre Areva. Alors pour terminer, j'aurais pu vous parler aussi des portiques de l'écotaxe qui restent à démonter. Il y en a 150 aujourd'hui qui sont encore debout et qui sont totalement inutiles, nous raconte Ouest France. J'aurais pu vous parler du cri du cœur de Michel Rocard dans l'opinion à l'égard des Britanniques. L'Europe ne pourra être relancée sans que les Anglais en sortent, affirme-t-il. Bref, vive le Brexit pour l'ancien Premier ministre, mais foin de démontage et d'exclusion, je vous propose une once d'esprit de Noël. Pierre, enfin tout petit peu de rêve et de fantaisie. Le Figaro nous raconte ce matin le Black and White Ball, le bal donné par l'écrivain Truman Capote à l'hôtel Plaza de New York, c'était en novembre 66. Et on y croise franchement du beau monde. Mia Farrow, Frank Sinatra, Lauren Bacall, Henri Fonda, Agnelli, Rothschild et Kennedy, 500 invités, toutes et tous de noir et de blanc vêtus, loup sur les yeux pour ce bal masqué grandiose. C'était un geste monumentale d'auto-glorification d'un écrivain né dans la pauvreté, mais qui avait fait fortune grâce à ses best-sellers et notamment évidemment de Sang-Froid, cette non-fiction story qui retraçait le parcours de deux tueurs du Kansas. Ce bal est resté pour nos cousins américains la fête du siècle, paraît-il. Mais cette extravagance à la Gatsby marqua aussi le début du déclin de l'écrivain. Décidément, c'était pas facile de rester dans l'esprit de Noël ce matin.